OK, on va commencer notre 60e leçon dans notre série sur l'histoire de l'Église. Ce soir, on va voir le 6e grand réveil évangélique. J'ai mis 1948-1950 parce que c'est, dans le fond, le plus grand. Mais dans le fond, on va voir que tout au cours du 20e siècle, il y a eu des réveils un petit peu partout, mais qui étaient plus petits. C'était pas des grands réveils internationaux, qu'on peut dire. Alors, dans nos leçons précédentes, on avait vu que les historiens qui ont étudié les réveils, les classes ordinairement avec des premiers, deuxièmes, troisièmes. J'ai mis les différents noms avec les dates. Celui qu'on va voir ce soir, ben, regardez 1948-1950. Alors, on avait regardé jusqu'ici les cinq premiers. Alors, aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon du 6e grand réveil évangélique, ainsi qu'un survol d'événements. Je les appelle pas des grands réveils, mais des événements de réveil qui ont eu lieu au 20e siècle. Alors, les réveils du 20e siècle. Il y a eu la période d'entre deux guerres. Alors, entre 1918 et le début de la première guerre, donc entre 1918 et 1939, ça a été une période qui a été caractérisée par une absence de réveil d'envergure mondiale ou même nationale, à quelques exceptions près. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. Les désillusions et le cynisme qu'apportent les guerres, la démoralisation de ce qu'on peut appeler les années folles, le développement du communisme, la crise économique de 1929, les relations internationales tendues, une emphase aussi sur l'évangile social et la grande bataille qu'on peut appeler qu'il y a eu entre la bataille du modernisme versus le fondamentalisme chrétien. Ça, c'était la grande bataille concernant la Bible. Il y a eu beaucoup de chicanes, entre guillemets, entre les libéraux qui cherchaient à amener des mauvaises versions ou toutes sortes de choses comme ça, ou des professeurs qui étaient vraiment des incroyants dans les écoles bibliques. Alors, ça a créé un immense mouvement là, de bataille qu'on a appelé les fondamentalistes. Qui ont beaucoup défendu la Bible et les grandes doctrines. Alors, ce fut une période aussi où la prière collective des chrétiens fut beaucoup moins importante que lors des périodes précédentes. Il y eut cependant quelques exceptions. En Irlande, entre 1920 et 1923, au milieu de graves et violentes divisions politiques, se manifesta un réveil. W.P. Nicholson, j'ai mis des photos là, pour que vous ayez une idée des personnages. Il était un presbytérien, était utilisé par le Seigneur pour amener plus de 7700 personnes au salut en Jésus-Christ. Alors on a vu aussi, durant cette période-là, l'émergence de plusieurs évangélistes puissamment utilisés par le Seigneur. J. Sidlow Baxter. Sidlow Baxter, je me souviens d'avoir déjà étudié il a fait une brique à peu près. Il l'avait publié d'abord en 6 volumes, qui est une introduction aux différents livres de la Bible. C'est vraiment un bijou. Ce livre-là, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu sur les introductions aux livres de la Bible. Le seul hic qu'il y a dans son livre, c'est qu'il voit les choses dans une perspective dispensationaliste. Mais le reste, là, c'est vraiment un bijou. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Alors, on voit son image. Et ça a été aussi un homme que le Seigneur a utilisé comme prédicateur itinérant. Alors, il s'est beaucoup promené un petit peu partout à travers la terre. De la même manière que J. Edwin Orr, que je vous avais déjà parlé, c'est un homme qui est devenu la plus grande autorité mondiale sur les réveils. Alors, il a passé sa vie, il était pasteur et prédicateur itinérant aussi. Et il a passé sa vie à étudier les différents réveils de toutes les époques. Alors, c'est une autorité là-dedans. Alors, c'est des périodes, des personnes qui sont venues au Seigneur durant cette période-là de réveil qui a eu lieu en Irlande. Aux États-Unis, bien sûr, ici, quand on regarde ça, il faut vraiment mentionner que quand on regarde des hommes comme ça, on en mentionne 3, mais le Seigneur en a levé plus que ça. Là, on mentionne les noms des plus connus, des personnes, c'est des célébrités, ceux-là. Là. Mais aux États-Unis, c'est la même chose. Il y en a eu, durant cette période des années 20, le fameux évangéliste Billy Sunday, qui a connu de grands succès dans ses campagnes d'évangélisation. On affirme qu'il a prêché à plus de 100 millions de personnes avant la période de la télédiffusion radio. Durant 20 de ses meilleures campagnes, on lui attribue plus de 593 004 professions de foi. Alors, Billy Sunday, le fondateur de cette église-ci, le côté francophone, Monsieur Héron, pour le côté francophone, Wellington, c'était anglais, mais le côté francophone, c'était Héron. Héron, quand il est arrivé ici, je me souviens d'avoir lu dans son livre, quand il parle de la fondation de l'église ici, il était tellement influencé par Billy Sunday. Billy Sunday, semble-t-il, qu'il avait une habitude. Quand il prêchait, il se tapait sur le nez comme ça, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, c'était comme un tic. Puis lui, Héron, quand il était arrivé ici, il a commencé à vouloir prêcher, mais on dirait que les jeunes prédicateurs, ils veulent imiter des gars à succès, hein, puis apparemment, ils n'arrêtaient pas de se taper sur le nez comme ça. Puis à un moment donné, quelqu'un, il a dit, « Pourquoi tu fais ça? » Fait que là, il a dit, « Ben, c'est parce que j'ai vu Billy Sunday faire ça. » Ben, il dit, « Il faut vraiment que tu fasses ça. » Quand tu es un prédicateur, tu gardes ton naturel, tu n'essaies pas d'imiter qui que ce soit. Alors, Billy Sunday, c'était quelqu'un qui, durant les années 20, aux États-Unis, s'est promené à travers tous les grands États, toutes les grandes villes américaines. C'était un homme, un ancien joueur de baseball, qui avait beaucoup de succès et il a été beaucoup utilisé par le Seigneur durant ces années-là. Alors, on mentionne lui, mais il n'a peut-être d'autres. Alors, il y avait eu aussi des manifestations de réveil. Tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas eu de grands réveils internationaux, mais il y a eu quand même des réveils dans certains pays, certains coins de pays, comme par exemple en Norvège, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en URSS, où certaines congrégations, par exemple, ont triplé à l'été de 1917. On dit que c'est Staline qui aurait été le responsable d'avoir stoppé ce réveil-là par quel moyen, je ne sais pas, là. Il faudrait aller plus en profondeur dans l'histoire de tout cela. Mais en tout cas, il y a apparemment qui aurait contribué à tuer le réveil dans l'œuf, comme on dit. Alors, il y a eu d'autres réveils qui se sont produits au Congo, où le nombre de protestants, par exemple, a passé de 9259 personnes à 200 000 sur une période de 12 ans. La même chose est arrivée aussi au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, au Malawi. Dans ce dernier pays, le nombre de protestants passa de 66 000 en 1924 à 174 000 en 1936. Alors, on voit que c'est des périodes que le Seigneur a travaillé par son Saint-Esprit. Alors, il y a eu aussi des nouveaux convertis au Cameroun en 1931 et des réveils locaux se sont produits aussi au Japon et en Corée. Alors, dans les petits bulletins qu'on distribue le dimanche, je pense que on avait déjà parlé de l'histoire du prédicateur John Song. Lui, en Chine, il a connu une croissance de 14 000 membres par année pendant 12 ans. Alors, John Song, c'est un homme qui a une histoire assez passionnante. C'est un homme qui s'est beaucoup consacré au Seigneur. Alors, cet infatigable prédicateur a voyagé 50 000 milles, a fait 3389 meetings dans 133 cités avec des assistances totalisant 508 000 personnes. Alors, lui, on lui attribue 50 000 nouveaux convertis. Au Mexique, il y a eu une croissance importante de 50 000 évangéliques en 1936 qui a passé à 250 000 en 1946. Alors, au Canada, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces hommes-là, Ralph et Lou Sutera. Alors, Ralph et Lou Sutera, c'est des personnes qui ont été connues durant les années 70, plus particulièrement dans l'Ouest canadien, où ils ont été les instruments du Seigneur pour amener des réveils locaux un peu dans ces coins-là. Alors, eux autres, ils ont produit des réveils un peu partout. Alors, leur ministère a duré une quarantaine d'années. Et j'ai reproduit sur la page suivante une carte qui donne une idée du début de leur ministère. Alors, vous pourrez lire ça, je voulais juste la mentionner, parce qu'on voit par les petits points les principales places où ils ont travaillé, qu'est-ce qui s'est passé. Moi, dans le temps que j'étais à Cornwall, il y avait quelqu'un qui m'avait donné un livre qui m'avait prêté un livre sur leur histoire. Je l'ai lu. Très intéressant, parce que on est, en général, pas beaucoup de personnes connaissent le travail du Saint-Esprit dans notre propre pays. Alors, vu qu'on avait parlé de Nicholson tantôt, en Irlande, dans les années 20 à 23, j'ai reproduit un article qui est paru sur le site Sentinelle de Néhémie. Parce que, bien sûr, il y a beaucoup d'informations sur Internet sur ces gars-là, mais j'essaie de choisir des affaires courtes, pas trop longues, mais quand même pour donner une idée de l'ampleur, comment le Seigneur a utilisé ces hommes-là. Alors, on va lire l'article. Au début des années 20, l'Irlande du Nord traversait une période de grands conflits chargés de bains de sang. Alors, c'est encore des histoires de politique avec l'Angleterre. C'était des temps de grand désespoir et d'appréhension. La crainte s'agrippait de nombreux cœurs et se répandait même dans les églises et la communauté religieuse. Par la miséricorde de Dieu, une intervention vint d'une source inattendue. Là commença une série de campagnes d'évangélisation qui, dans le cours des années suivantes, eurent un profond effet sur la vie religieuse et communale de la province. L'évangéliste utilisé par Dieu pendant ces réunions était W.P. Nicholson. C'était une personne dénuée de toute crainte, au comportement familier pour certains et offensif pour d'autres. Nicholson ne se souciait pas de ce que les autres pensaient, de sa manière de prêcher ou de ses méthodes. Il avait été enseigné par Dieu lui-même dans la chambre secrète et par conséquent, était tout à fait unique dans sa prédication et sa façon d'aborder les hommes. Être entièrement dévoué au royaume de Dieu et de ses intérêts, c'était sa passion. La principale caractéristique de toute la vie, de tout le ministère de Nicholson, était son zèle brûlant. Nicholson avait l'habitude de dire que lorsqu'une mission était initiée, il ne fallait pas beaucoup de temps avant qu'ils aient soit une émeute ou soit un réveil. Quelquefois, nous avions plus d'émeutes que de réveils, mais jamais un réveil sans émeute. Nicholson maniait l'épée de l'esprit avec fureur. Ses auditeurs étaient toujours affectés d'une manière ou d'une autre. Certains, par sa prédication, étaient amenés à se repentir humblement, tandis que d'autres résistait la parole de Dieu avec indignation. Les deux thèmes favoris de Nicholson étaient l'amour de Dieu et l'enfer de Dieu. W.P. Nicholson prêchait toujours l'amour de Dieu avec toute la chaleur et la tendresse dont il pouvait s'armer, mais à ceux qui rejetaient cette bonne nouvelle, il n'offrait qu'une seule alternative, l'enfer de Dieu. Il prêchait sur chaque aspect de l'enfer avec un tel zèle et une telle passion que ses auditeurs déclaraient qu'ils étaient presque capables de sentir le soufre brûlant. D'autres encore, sous une profonde conviction et avec anxiété, avaient leur transpiration qui tombait goutte à goutte et inconsciemment faisaient tomber en lambeaux leur recueil de cantiques qu'ils avaient sur leurs genoux. À travers cette sorte de fervente prédication, Dieu amena des communautés entières à se confronter face à la question « Que ferai-je de Jésus? » Un vieil homme qui avait des souvenirs à propos du réveil de 1819 en Ulster dit que certains des effets des réunions de Nicholson dépassaient même ce qui était arrivé en 1859. Une autre personne, commentant l'œuvre de Nicholson, affirma qu'elle n'avait rien vu de semblable depuis les jours de Dale Moody. Alors, si vous regardez sur la photo de Nicholson, j'avais mis en anglais « The tornado of the pulpit and the Whitfield of the Ireland ». Autrement dit, c'était un homme avec un style de prédication comme une tornade. Et on lui a attribué le nom de le Whitfield de l'Irlande. Alors, ça donne une idée du style de personnage que c'était. Alors, excepté par la prière, une telle puissance de réveil est inaccessible. M. Nicholson fut en permanence un homme de prière profonde. On pouvait dire que la prière était son habitude car il aimait prier. Ces campagnes comportaient des nuits et des demi-nuits de prière. Le fait de prier dans l'esprit le gardait dans l'esprit de prière. Venant de la chambre secrète de prière, il montait sur le pupitre, revêtu de dons. M. Lindsay Glegg écrivit de W.P. Nicholson, « Le secret de sa puissance résidait sans nul doute possible dans sa vie de prière. Il resta une fois dans notre maison et était debout le matin à 6 heures, mais ne sortait jamais avant midi. Il passait toutes ses heures à lutter avec Dieu dans la prière. Selon sa propre requête spéciale, il ne voulait être dérangé ni par le téléphone, ni par quelconque visiteur, quelle que fût l'urgence. À une autre occasion, les draps de son lit furent trouvés déchirés en lambeaux. M. Clegg de nouveau commenta, « Ce qui était arrivé, c'est qu'il avait inconsciemment, en agonie dans la prière, déchiré les draps en lambeaux. Oui, la prière était sûrement le secret de sa vie et de son puissant ministère. » Peut-être que le fruit le plus doux de la vie de prière de Nicholson fut la profonde familiarité qui en était produite entre lui-même et la personne de Christ. Dans son livre qui s'appelle « Vers le but » ou « On Towards the Goal », il écrit « Je ne connais personne dans le monde mieux que le Seigneur. Je ne connais pas ma femme ou ma mère comme je connais le Seigneur. Je ne connais pas les meilleurs amis que j'ai jamais eus comme je connais le Seigneur. Nous marchons ensemble, le Seigneur et moi, parce que nous sommes en communion. Il n'y a rien de ce que j'ai qui ne soit à lui. C'est là, en vérité, l'essence et le cœur du réveil, une intime visitation et une intime communion avec Jésus-Christ. Seigneur, ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi, comme on peut le lire dans le psaume 85, verset 6. Alors, on aurait pu parler de bien d'autres personnages, mais on va aller à celui qu'on a parlé comme titre, on a dit 1948-1950, Duncan Campbell. On peut encore aujourd'hui aller sur YouTube et écouter de ses prédications qui ont été enregistrées parce que les enregistrements existaient déjà à cette époque-là. Alors, je vous reproduis ici en dessous, là, encore une fois, un article qui vient de Sentinelle de Néhémie. Et c'est un réveil qui a eu, c'est un réveil célèbre, qui a eu lieu dans les îles Hébrides, qu'on appelle. Les îles Hébrides sont situées juste un petit peu, je vous ai mis la carte, là, juste un petit peu, pas au nord, mais je sais pas, à l'ouest de l'Écosse. Alors, lui aussi, je vais vous lire le parce que je trouve que c'est quand même assez court, mais il va nous donner quand même les principales idées qui s'est produites durant ces périodes-là. C'est assez extraordinaire ce qui s'est passé là. Alors le verset Jérémie 29, versets 13 et 14, dit « Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit le Seigneur. » Dieu prépare-t-il son Église pour de nouvelles victoires? Les pages qu'on va lire nous réapprennent qu'il ne faut jamais désespérer. Les champs blanchissent, Dieu vit. Les actes des apôtres continuent. Alors, actuellement, dans les églises officielles comme dans les communautés indépendantes de notre pays, un bon nombre de chrétiens soupirent après une vie et une puissance spirituelle plus grande. Chacun est de plus en plus persuadé que seul un réveil du Saint-Esprit peut amener un changement et arracher les croyants au sommeil mortel de l'indifférence et du contentement de soi. Mais quand ce renouveau viendra-t-il? Quelles sont les conditions à remplir pour lui frayer la voie? Prenons conscience d'abord que seule une intervention de l'Esprit-Saint peut provoquer cette vie abondante qui ne nous sera donnée qu'en réponse à un désir profond, ardent et complètement désintéressé. Dieu est prêt à nous exaucer. Encore faut-il que nous prions. C'est au prophète Zacharie que fut adressé cet ordre. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Zacharie 10, verset 1. La pluie, dans le langage de l'Écriture sainte, est le symbole d'une effusion du Saint-Esprit, comme la sécheresse est l'image de la sécheresse spirituelle. Et Dieu fait au prophète Ésaïe la promesse que voici. Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Ésaïe 44, verset 3. Dieu serait-il moins fidèle à sa parole aujourd'hui que jadis? Non. Mais pour que les interventions divines puissent se manifester, il faut en payer le prix. Et quel est ce prix? Parmi les réveils dont les fruits sont encore visibles à ce jour, celui des îles Hébrides en Grande-Bretagne, plus que nous l'autre, peut nous servir de précieuses indications. Les nouvelles authentiques qui nous sont parvenues nous aideront certainement à retenir les faits essentiels et à comprendre quel est le prix d'un réveil. Là, on va parler un petit peu des événements des Hébrides. Au mois d'octobre 1949, le Synode des Églises libres s'était réuni à Stornoway, île Lewis, la plus grande des Hébrides en Écosse. Parmi les questions à l'ordre du jour figurait en premier lieu celle de l'aggravation de l'indifférence religieuse et de l'apostasie, tout spécialement de la jeunesse. On espérait également trouver la cause du nombre très restreint de conversions dans les différentes églises. Les délibérations aboutirent à la rédaction d'un appel décrivant la situation telle qu'elle était, exhortant les chrétiens à prendre garde à l'esprit du siècle qui menace de tout envahir. L'appel fut reproduit par la presse et remis à chaque église en particulier. On ne sait pas exactement quels en furent les effets. Cependant, il s'avéra plus tard que des groupes de chrétiens, ici et là, apportèrent cette détresse au Seigneur, en particulier à Barvas, où des hommes et des femmes, affligés de l'état spirituel lamentable de la contrée, en firent un sujet de prière spécial. La condition des hommes perdus, demeurant loin de Dieu, devint un véritable fardeau pour ces chrétiens, qui, comme autrefois, crièrent à Dieu, « Ne veux-tu pas nous redonner la vie, afin que ton peuple trouve en toi le sujet de sa joie. » Psaume 85, verset 7. Dans le village de Barvas, un groupe de jeunes gens, avec leur pasteur, décidèrent de se réunir dans une grange, pressés par le désir de se mettre en règle avec Dieu, le suppliant de révéler sa puissance à ses enfants. Des mois durant, ils persévérèrent dans la prière. Ils y consacrèrent des nuits entières, chaque semaine à genoux, sur la paille, résolus à ne pas lâcher prise jusqu'à ce que Dieu réponde. Une certaine nuit, un diacre se leva et lut les versets 3 à 5 du psaume 24. « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. » Une seconde fois, il lut ce passage à ses camarades et leur dit, « Mes frères, nous avons prié et supplié notre Dieu pendant des semaines. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Nos mains sont-elles innocentes? Notre cœur est-il purifié de toute souillure? Nous savons que le sang de Jésus nous purifie de tout péché et nous avons la promesse que notre Dieu veut faire descendre une abondante rosée sur le sol altéré. Dieu est un Dieu de réveil qui tient ce qu'il promet envers ceux qui l'invoquent dans l'humilité et dans la foi. Qu'est-ce qui peut bien donc retenir la bénédiction? Ces paroles furent un appel à leur conscience et les amenèrent à faire un sérieux examen. Ils résolurent d'exposer à la lumière divine, par une confession réciproque, tous les péchés que le Saint-Esprit leur signalerait, même ceux dont ils n'avaient pas été conscients jusqu'à ce jour. Ce qui se passa dans le silence de cette nuit-là et les suivantes fut la première des grandes choses que Dieu accomplit. Aux supplications prolongées des jours précédents, succéda la triomphante certitude que le Seigneur avait entendu les cris de ses enfants et que sa lumière allait se manifester aux yeux de tous. La promesse qui fut donnée à Salomon lors de l'inauguration du temple se réalisa d'une façon merveilleuse pour les intercesseurs. « Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Comme on peut le lire dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Quand le peuple de Dieu s'humilie, le Saint-Esprit a toute liberté pour agir. Ainsi, le chemin était ouvert pour le renouveau demandé. Dieu était prêt à intervenir et à guérir le pays. À l'autre extrémité du village, non loin du lieu de rassemblement des jeunes gens, deux vieilles sœurs priaient dans leur chambre. Elles étaient âgées respectivement de 82 et de 84 ans, et l'une d'elles était aveugle. Elle aussi, jour après jour, avait crié à Dieu pour la jeunesse qui s'égarait dans le monde, persévérant dans l'intercession jusqu'au matin près de leur petit fourneau. Une certaine nuit, raconte l'une d'elles, un tel fardeau pesait sur nous que nous savions que Dieu allait répondre. Ne pouvant pas dormir, nous priâmes jusqu'au matin. Pendant ces longues heures, Satan essaya de nous décourager et d'interrompre nos prières. Je le repoussai énergiquement au nom du Seigneur et plaçai le sang de Jésus entre lui et moi. Il s'enfuit battu et je sus que le réveil était là. Ses sœurs étaient si persuadées de la proche intervention de Dieu qu'elles firent appel à la Faith Mission, par le moyen de laquelle elles étaient parvenues à la foi quelques 45 ans auparavant. Par télégramme, une invitation fut adressée à Duncan Campbell, prédicateur écossais et homme de prière. Il se trouvait en ce moment-là en Irlande, où il poursuivait un travail béni. Et il devait participer à une conférence prévue pour les mêmes dates que celle qui venait de lui être proposée. Il accepta l'invitation qui lui venait de l'île Lewis, mais pour l'année suivante seulement. Cependant, les deux sœurs réitérèrent leur appel en ces termes. L'homme propose, mais Dieu dit, Duncan Campbell sera ici dans 2 semaines. Ensuite, de circonstances imprévisibles mais permises de Dieu, la conférence pour laquelle il était retenu fut renvoyée en sorte que l'homme désigné par Dieu pour être l'instrument du réveil se trouva sur les lieux où, au moment voulu. Nous ne possédons que peu de renseignements sur le serviteur que Dieu choisit pour apporter son message aux îles Hébrides. Il enseignait autrefois la doctrine chrétienne au collège de la Faith Mission. Puis Duncan Campbell se sentit appelé au travail d'évangélisation. Le Seigneur lui ayant accordé le don d'évangéliste, donc il fut confirmé plus tard par les fruits manifestes de son ministère. Un matin, alors qu'il méditait dans son cabinet de travail, l'Esprit du Seigneur vint sur lui d'une manière tranquille, provoquant un profond examen de conscience et de cœur, tout en lui donnant une vision toute nouvelle de l'horreur du péché. Il vit les hommes précipités dans le gouffre de feu, le monde s'élancer vers la perdition éternelle. Ainsi, Dieu avait préparé son instrument pour proclamer avec ardeur le message du jugement divin. Campbell réalisa que, selon les promesses de Dieu, de nouvelles possibilités d'action s'offraient à lui. Était-il prêt à en payer le prix pour une obéissance, par une obéissance inconditionnelle? Si oui, il expérimenterait d'une manière encore plus grande l'action et la puissance du Saint-Esprit dans ses prédications. Dès ce jour, son message change du tout au tout. Affranchi de toute crainte et rempli de la puissance de Dieu, il annonce avec un profond sérieux les jugements qui approchent et exhorte ses auditeurs à fuir la colère à venir. Ses paroles deviennent plus incisives, même enflammées et dramatiques. Il parle avec conviction, dans un langage très simple. Dieu lui a montré comment s'adresser au peuple. L'Esprit Saint, dit-il, est le meilleur des maîtres. Pour posséder sa puissance, nous devons être réellement en règle avec Dieu. Il faut obéir aux lois spirituelles contenues dans les Saintes Écritures. Il souligne particulièrement l'importance du sang de Jésus qui affranchit du péché et garde le cœur pur. Cet homme âgé de près de 60 ans, d'aspect viril, donne l'impression d'une grande humilité et d'un parfait naturel. Il marche avec Dieu d'une manière constante. À son contact, on éprouve la présence divine. En face de la situation désespérée dans laquelle se trouve le monde, il compte sur la grâce de Dieu pour pardonner le péché et l'égarement des hommes. Il attend de lui une puissante intervention. C'est dans l'attente de grandes choses qui devaient se passer que les anciens de l'église de Barvers reçurent Duncan Campbell. Ces hommes avaient osé croire que Dieu répondrait à la prière persévérante. La première réunion ne présenta rien de particulier. Le chant fut satisfaisant. Une certaine liberté se manifesta dans la prière en commun. Ce fut tout. À la fin de la rencontre, un homme s'approcha de Campbell. C'était un de ceux qui avaient prié dans la grange. « Ne vous découragez-vous pas, » dit-il. « Le réveil vient, j'entends déjà le bruit des chariots de Dieu. » Là-dessus, il proposa de passer la nuit en prière dans une maison voisine. « Nous étions une trentaine, » raconte Campbell, « pour demander l'intervention de notre Dieu. » À 3 heures du matin, l'Esprit du Seigneur descendit sur l'assemblée. Je les vois encore, ces hommes et ces femmes, terrassés. Nous savions alors que Dieu s'était rendu maître de la situation et avait repoussé les puissances des ténèbres afin que des âmes puissent être libérées. Lorsque nous quittâmes la maison, nous constatâmes que l'Esprit de Dieu était partout à l'œuvre. Chaque maison était encore éclairée. Personne ne pensait dormir. Partout, il y avait des hommes dans l'angoisse, cherchant Dieu. Dans la rue, j'en rencontrai 3, prosternés devant le Seigneur, invoquant son pardon. Rien d'étonnant à ce que le soir suivant, l'église fut pleine lorsque Campbell y entra. Un grand nombre d'autocars étaient arrivés dans la journée de toutes les parties de l'île. Une camionnette de bouchers amena 7 hommes d'une distance de 25 km environ. Cette même nuit, ils se convertirent tous les 7. Qui les avait appelés? Dieu a ses moyens propres et merveilleux pour attirer les hommes à lui. L'Esprit œuvrait puissamment, convainquant les hommes de péché, de sorte qu'ils criaient à Dieu pour obtenir grâce. Lorsque, tôt le matin, Campbell quitta l'église, un messager lui apprit qu'à l'autre extrémité de la localité, des gens étaient saisis d'une grande détresse morale. Il se hâta d'y aller. Sous le ciel étoilé, des hommes et des femmes qui n'avaient pas assisté à la réunion étaient agenouillés au bord du chemin, cherchant la paix avec Dieu. Une œuvre profonde avait commencé. Cela continua, écrit Campbell, pendant 5 semaines. Dans une église, il avait une réunion à 19 heures, dans une autre à 22 heures et une troisième à minuit. Après cela, je me rendais de nouveau dans la première église d'où je sortais habituellement vers 5 ou 6 heures du matin, fatigué, mais rempli de joie de me savoir engagé dans un tel mouvement de l'Esprit de Dieu. Je restai 5 semaines à Barvers. Ensuite, le feu gagna les localités voisines et se propagea jusqu'aux régions les plus éloignées. Tout ceci se passait dans l'île Lewis, forteresse d'un certain calvinisme, aussi froid que rigoriste, où il semblait impossible qu'un renouveau pût jamais se produire, surtout si l'on considère que ses habitants s'expriment avec une grande réserve sur tout ce qui touche à la religion, ne faisant pas volontiers état de leurs sentiments personnels dans ce domaine. Seule la puissance de Dieu n'est pas limitée par les tendances et les traditions des hommes. En mai 52, Duncan Campbell fut envoyé par Dieu dans une autre île qu'il ne connaissait pas, celle de Barnary Harris, au sud de l'île Lewis. Sans tarder, il se mit en route. Peu après son débarquement, un homme l'arrêta dans la rue, lui demanda son nom et s'écria, « Dieu soit loué, je lui avais demandé de vous envoyer chez nous afin que le réveil éclatât aussi parmi nous. Maintenant, je sais que ma prière est exaucée. » des réunions furent organisées dans l'église presbytérienne. Pourtant, le premier soir, l'atmosphère était pesante. Les paroles semblaient vaines. Campbell se décida alors à envoyer un télégramme à l'île Lewis pour demander l'aide de ses quelques intercesseurs, notamment le jeune Donald Smith. Ce dernier, âgé de 17 ans, est rempli de l'esprit de prière d'une manière remarquable. Campbell l'a surnommé Levan Roberts de Lewis, tant il lui ressemble celui dont Dieu se servit lors du réveil au pays de Galles. Smith est un jeune homme calme et ouvert. Ce qui le caractérise, c'est sa profonde crainte de Dieu. Il mène une vie de prière exceptionnelle, passant quotidiennement plusieurs heures dans la présence du Seigneur, dans laquelle il est du reste constamment. Dieu l'emploie comme autrefois Phiné pour convaincre les hommes de péché. Ici, je mettrai une petite observation. Ces paroles très simples pénètrent dans les consciences comme des flèches enflammées. Depuis le jour de sa conversion, il est rempli de l'Esprit. Il grandit sans cesse en puissance et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il semblait que tout l'enfer s'était ligué contre le prédicateur lors de la première réunion tenue par les intercesseurs de Lewis dans cette petite île de Barnery Harris. L'atmosphère était froide. Il n'y avait aucun écho de la part des auditeurs. Le texte choisi par Campbell était « Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. » Luc 10, verset 15. Au milieu de la prédication, il s'arrêta et demanda à Donald Smith de prier. En une supplication intense et fervente, celui-ci répandit son cœur devant Dieu en lui rappelant ses promesses. Il pria pendant une demi-heure pour les habitants de l'île, louant Dieu de ce qu'il exauce la prière de ses enfants. Subitement, il sembla que le ciel se déchirait. L'Esprit de Dieu descendit sur l'assemblée comme à Pentecôte, se manifestant de la même manière qu'à l'île Lewis. Tout l'auditoire tomba sur sa face devant Dieu et beaucoup s'écroulèrent sans force sur le sol. Ce qui caractérisait ce mouvement, c'est que l'Esprit de Dieu agissait dans toute la localité et ses environs. Partout, des gens étaient convaincus de péché, athées, buveurs, chrétiens superficiels, instituteurs dans leur classe, pêcheurs de harengs furent saisis de froid au large de la baie. Tous se sentirent irrésistiblement poussés à se rendre à l'église pour y trouver le soulagement de leur âme. En peu de temps, les collines entourant la maison de Dieu furent noires de monde. De toutes parts, on venait à la réunion. « Lorsque je sortis de l'église, écrit Campbell, je rencontrai des hommes saisis par la crainte de Dieu. Ils se prenaient par le bras en tremblant et en pleurant. La petite île de Barnery Harris fit de la fabrication du fameux drap dit Harris Tweed, mais ce jour-là, le travail fut suspendu et toute l'île ne fut plus préoccupée que d'une seule chose, chercher Dieu. Le jour suivant, je prêchai de midi à 3 heures du matin. Le surlendemain, je parlais 8 fois de suite. Le Saint-Esprit me donnait des messages venant directement du ciel et sa présence était sensible à tous. Physiquement, je me sentais merveilleusement soutenu. Peut-être la caractéristique la plus marquante de ce réveil fut-elle le sentiment profond de la présence et de la sainteté de Dieu. Sentiment si intense que personne n'osait bouger. Un jour, un jeune converti parla à un jeune homme incrédule. Ce dernier fut à un tel point touché qu'il se mit à trembler. Cherchant à secouer l'angoisse qui l'avait saisi, il se rendit au café voisin. Mais il trouva des hommes qui s'entretenaient de l'état de leur âme. « Ce n'est pas ici que je pourrais me débarrasser de mon angoisse, » se dit-il. « Allons plutôt danser. » Il n'est pas entré depuis 5 minutes dans la salle de danse qu'un camarade lui dit « Où passerions-nous l'éternité si Dieu nous frappait aujourd'hui? » Partout régnait ce même sentiment de la présence de Dieu. et de l'importance capitale de l'éternité. Ne pouvant échapper plus longtemps à cette présence, le soir même, ce jeune homme prit la décision de se donner au Seigneur. D'autres exemples semblables pourraient être cités en grand nombre. Une autre caractéristique du mouvement fut la conviction profonde de péché qui se manifestait souvent d'une manière terrible. Lorsque l'Esprit Saint commence à dévoiler le péché et à l'exposer à sa lumière divine, l'homme s'effondre sous son action et demande ardemment le pardon de Dieu. Il reconnaît qu'il est un pécheur perdu, ne méritant que jugement et condamnation. Même la présence de tierces personnes ne l'empêche aucunement de confesser ouvertement sa faute. Ainsi ébranlé, le pécheur repentant perçoit la voix de Dieu qui l'assure qu'en Jésus-Christ, il y a un plein salut et un plein pardon. Ce qu'il lui faut alors, c'est saisir ce pardon par la foi, comme un noyé saisit une bouée de sauvetage. Le lourd fardeau de son sentiment de culpabilité tombe alors et une paix ineffable remplit son cœur qui déborde de louanges et de reconnaissance. Il y a également lieu de relever que ce mouvement d'esprit aux îles Hébrides ne fut pas lié à la présence d'un instrument humain. Certes, Dieu utilisa les messages de Duncan Campbell pour convaincre les gens de la nécessité d'une conversion personnelle, mais il ne fut fait appel ni à une décision, ni à la confession. Le Saint-Esprit lui-même convainquait de péché et amenait les âmes à un contact vivant et réel avec le Seigneur. On constata à maintes reprises que les gens étaient saisis par la puissance de Dieu n'importe où, au travail, dans les plaisirs, ou souvent même avant de pénétrer dans la maison de Dieu. De nombreux témoignages le prouvent, tel l'exemple suivant. Un soir, alors qu'il conduisait un autocar vers le lieu de la réunion, le chauffeur arrêta subitement son véhicule au bord de la route. Il avait été saisi par l'Esprit de Dieu et il lui était impossible de continuer son chemin. Quant aux 48 voyageurs, eux aussi se trouvaient sous une profonde conviction de péché. En quelques minutes, l'autocar fut transformé en un lieu de prière. 3 heures durant, il resta ainsi au bord de la route, tandis que les occupants se convertissaient les uns après les autres. En raison de l'heure tardive, la course fut renvoyée un autre soir. Ainsi, sans l'intermédiaire d'aucun homme, Dieu avait accompli par son esprit ce qu'il aurait fait ailleurs par le moyen d'un instrument humain. On s'est demandé, non sans raison, quels ont été les fruits de ce réveil. Des individus et des églises ont-ils été vraiment transformés? Dans quelle mesure le niveau spirituel de l'Église a-t-il été influencé? Un réveil marque le commencement d'une nouvelle vie et seul l'avenir peut révéler si les effets en sont durables. Mais ce que nous apprenons aujourd'hui sur les Hébrides est si magnifique que nous ne pouvons que louer les hauts faits de notre Dieu. Voici un exemple qui nous aidera à saisir la profondeur de ce mouvement. Au village d'Arnold, rapporte Duncan Campbell, nous rencontrâmes une certaine résistance. De 4 à 500 habitants, quelques-uns seulement assistèrent à la réunion, en sorte que l'église fut plutôt remplie d'auditeurs venus d'autres localités. La jeunesse en particulier s'était abstenue. Elle préférait s'adonner à la boisson ou au braconnage. Nous suppliâmes Dieu par d'ardentes prières et de nouveau, le Seigneur se révéla comme le grand vainqueur. Après la réunion, étant entré dans une maison pour y demander une boisson désaltérante, je trouvai la maîtresse de maison prosternée devant Dieu avec 7 autres dames et dans une grande angoisse. Pendant que nous étions en prière, Dieu avait agi dans ses cœurs. Ce qui se passa dans cette maison se produisit également dans presque toute la localité en l'espace de 40 heures. Le café fut fermé selon le désir des habitants et il le restera pour toujours. Le village a été complètement transformé et quiconque le parcourt aujourd'hui y respire la présence de Dieu. Un changement très marqué s'est également manifesté en ce qui concerne l'assistance au culte et aux réunions de prière. La parole de Dieu est reçue avec joie, lue avec avidité, tant elle est devenue pour ces gens une force vitale dont ils ne sauraient plus jamais se passer. Ainsi est né le besoin de prolonger les réunions au-delà de leur habituel. Les rencontres de prière sont bien plus fréquentées qu'auparavant. Une enquête faite dans un district révèle que sur 100 personnes nouvellement converties, 4 dames seulement n'assistaient pas à la réunion de prière. Aujourd'hui, à Arnold, les jeunes gens sont les plus zélés, alors qu'autrefois, ils étaient toujours au café. Le principal sujet d'intercession est le salut des âmes encore inconverties. La conscience du danger dans lequel elles se trouvent éveille l'ardent désir de les en arracher. Des chrétiens précédemment endormis sont devenus maintenant des gagneurs d'âmes. Les églises jadis mortes sont désormais des communautés vivantes, une lumière et un témoignage pour le monde. On comprendra sans peine que parmi une population qui a commencé à vivre pour Dieu, le culte de famille soit devenu la règle générale, que des dissensions sociales se soient éteintes, que l'ivrognerie, l'oisiveté, l'immoralité et le vol aient disparu, comme emportés par un courant purificateur. La critique s'est élevée contre certaines manifestations du mouvement. Cependant, les faits sont suffisamment éloquents pour justifier l'opinion qu'un renouveau du Saint-Esprit est la seule réponse à la détresse de notre temps. Le rapport que fit Duncan Campbell à la Convention de Keswick en Angleterre et dont nous avons tiré la plupart de nos informations, conclut en disant « Nous pouvons organiser des réunions, des conférences et des rencontres, mais ce qu'il nous faut avant tout, c'est une nouvelle manifestation de la puissance de Dieu, laquelle convaincra si intensément les hommes de leurs péchés qu'ils commenceront à rechercher Dieu. Tant que nous n'aurons pas mis notre vie en ordre, nous ne verrons pas le réveil. » En présence des puissantes manifestations de l'Esprit de Dieu aux îles Hébrides, les questions qui se posent tout naturellement au cœur des croyants sont celles-ci. Un mouvement de l'Esprit Saint, pourrait-il se produire chez nous également? Quelles en sont les conditions? Comment obtenir un renouveau? Personne ne peut dire à l'avance comment un réveil se manifestera. Sa préparation cachée, comme sa manifestation visible, dépendent de la puissance et de la sagesse de Dieu. Les expériences faites au cours du réveil aux Hébrides nous semblent particulièrement riches en enseignements. Elles nous indiquent le prix que Dieu demande. Nous aimerions les résumer en 5 points. Premier point, un réveil ne commence pas au sein du monde qui vit éloigné de Dieu. Il commence parmi les croyants auxquels Dieu ouvre les yeux, pour qu'ils reconnaissent la misère spirituelle de leur Église ou de leur communauté. Deuxièmement, aux îles d'Hébrides, il y eut tout d'abord quelques chrétiens isolés, puis des groupes restreints qui s'adonnèrent à la prière. Dieu ne commence en général pas par les foules, mais presque toujours avec une ou un petit nombre de personnes sur lesquelles il place le fardeau de l'intercession. Troisièmement, les intercesseurs des Hébrides étaient prêts à se laisser convaincre de leur propre manquement, de tout ce qui pouvait faire obstacle à l'exaucement de leur prière et à s'en humilier. Quatrièmement, ils fondèrent leur attente sur certaines promesses du Seigneur, prêts à en remplir les conditions. Ainsi, à chaque rencontre, ils rappelaient à Dieu ce qu'il avait promis. « Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai. » Des cieux, 2 Chroniques 7, 14. Ils comptaient d'une façon inébranlable sur la réponse du Seigneur. Leur intercession était continuelle, jaillissant des profondeurs de leur être. Elle leur demandait une consécration complète, le sacrifice de bien des heures de sommeil, de leurs aises, de leur réputation auprès de leurs concitoyens. Comme dans la parabole du juge inique, il s'agissait d'une prière incessante, d'une prière qui ne se laisse arrêter par rien, à laquelle d'ailleurs Dieu répond toujours. Aujourd'hui encore, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emportent, qui s'en emparent. Matthieu 11 et 12. Alors, les intercesseurs des Hébrides nous donnent un exemple. Dieu trouvera-t-il dans notre pays des hommes de la même trempe qui non seulement attendent et prient pour un réveil, mais sont prêts à en payer le prix? Nous pouvons fort bien, individuellement ou en commun, intercéder avec ardeur et persévérance, et Dieu nous répondra. Mais ce qu'il faut, c'est une consécration totale et une foi qui s'engage. Seule la prière persévérante de croyants qui n'estimeront pas leur vie trop précieuse pour être dépensée de la sorte conduira à la victoire et au but désiré. Le prix à payer peut être décrit en ces termes. Se mettre joyeusement à la disposition de Dieu pour se donner complètement à sa cause lorsqu'il nous y appelle. Lui apporter le sacrifice de notre obéissance et Dieu répondra. La déchristianisation croissante actuelle, la vague montante de l'athéisme, de l'occultisme, de l'immoralité et du péché sous toutes ses formes, nous pousse à lancer un cri d'alarme et à convier instamment les croyants de partout à s'unir entre eux, au nom de notre seul Maître Jésus-Christ, pour former de nombreuses petites cellules de prière vivantes, comme on peut le lire dans Matthieu 18, versets 19 et 20, afin d'intercéder sans relâche pour un réveil des consciences et pour une œuvre du Saint-Esprit profonde et durable dans toutes nos villes et villages. Alors, j'ai mis deux applications. Louons le Seigneur pour sa miséricorde manifestée dans le fait qu'il accorde régulièrement à son Église et au monde des temps de rafraîchissement par son Esprit et les réveils. Deuxième application, prions que le Seigneur se manifeste encore de cette manière dans notre époque troublée. Que notre grand et souverain Seigneur soit loué, béni et adoré éternellement. Amen.